m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole pendant ces 57 minutes interactives. Il est observé ces derniers temps la grogne dans certaines entreprises publiques et autres petites et moyennes entreprises en RDC. Selon certains syndicats, le non-respect des dispositions relatives aux droits du travail par les uns et les autres, entendez par là, employeurs et employés, serait à la base de cette situation. Certains observateurs estiment que pour instaurer un climat de confiance et d'harmonie dans ces entreprises, il faut renforcer les contrôles de l'inspection du travail. Alors comment réagissez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de cette émission. Mimi Kindou, Nico Kalambay, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne Guy Koukou qui est avec nous. Bonjour Monsieur Koukou.
Bonjour.
Vous êtes président de la CDT, entendez par là la Convention des travailleurs.
La Confédération démocratique du travail.
Ok. Et vous êtes en même temps président de l'intersyndicale nationale.
Oui.
Voilà. Fait. Alors, d'entrée de jeu, quand vous, les défenseurs des travailleurs et aussi, quelquefois, des employeurs, vous vous retrouvez en face de l'inspection du travail, quelle est l'impression que vous avez de cette institution qui est censée régler les irrégularités qui existent entre l'employeur et l'employé?
Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'inspection du travail présente des carences que nous pouvons qualifier de trois ordres, les ressources humaines, c'est-à-dire il y a les inspecteurs qui ont vieilli, qu'on n'a pas renouvelé depuis longtemps. On a recruté certains administratifs qui sont devenus des inspecteurs, mais sans une formation adéquate. Mais il y a surtout une insuffisance des inspecteurs sur l'étendue de la République. Nous avons en moyenne un inspecteur pour au moins 250 000 travailleurs. Donc c'est vraiment inapproprié et les inspecteurs ne sont pas à mesure de couvrir, surtout qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour couvrir les espaces. Quand vous allez par exemple au Katanga, au Bas-Congo, au Congo central ici, vous trouvez des étendues qui peuvent aller de 500 kilomètres, il n'y a même pas un inspecteur sur cet espace-là. Et c'est difficile pour contrôler la situation des travailleurs. C'est ce qui fait que vous entendez partout, les travailleurs sont en train de crier que les Chinois, les ceci, les cela, ne respectent pas. Parce qu'au fait, il n'y a plus de contrôle dans les entreprises. Même ici à Kinshasa, il n'y a pas de contrôle. Ils sont là, mais beaucoup de sociétés existent. Et l'inspection ne sait même pas vous dire le nombre exact des sociétés qu'il y a en République, même en ville, dans la ville province de Kinshasa. C'est une situation qui est réelle et nous avons demandé à ce qu'on puisse recruter les inspecteurs du travail parce qu'il n'y aura pas de solution dans le monde du travail s'il n'y a pas des inspecteurs. Ce sont des piliers pour les dialogues sociaux dans les entreprises.
Alors, vous le dites si bien que ce sont des piliers pour les dialogues sociaux en RDC, mais quand on observe aujourd'hui la grogne, vous l'avez dit par-ci par-là, nous ne pouvons pas nous le cacher parce que c'est un secret des polichinelles, il y a grogne à l'Olatra, à la DGI, au FPI, à la SONAS et chez les Indo-Pakistanais, mais chaque entreprise a ses réalités. Chez les Indo-Pakistanais, on évoque le cas de la non-application des SMIC, la SONAS des licenciements abusifs, les OFPI, le cas des rétrogrades et la DGI, la réclamation des plus-values, et à l'Olatra, la situation des agents qui devaient aller en retraite et d'autres problèmes. Alors, comment résoudre ces problèmes définitivement?
C'est un problème de droit. Le problème est qu'on ne veut pas respecter la loi. Lorsque vous voyez certains conflits naissent, soit que les travailleurs ne sont pas payés, il y a des mandataires qu'on a nommés dans une entreprise, ce monsieur-là va là-bas pour faire des ponctions d'argent envoyées dans leur parti politique ou données auprès de certaines institutions, les protecteurs qui animent certaines institutions de la République. C'est connu de tous. Et deuxièmement, il n'y a pas d'audit. Ces gens gèrent ces entreprises comme des biens privés. Ils prennent, vous avez pris même ici à Kinshasa, on a arrêté une autorité qui a pris les véhicules de l'État après avoir quitté une fonction. Et cela, c'est parce qu'on a regardé, mais cela se ressent dans toutes les entreprises, mais c'est pire que ça. Si on audite les comptes personnels des PDG, des DG, des entreprises, ils ont plus d'argent que l'entreprise qu'ils dirigent et les travailleurs qui sont impayés n'ont pas où aller parce qu'on n'a pas respecté les droits des travailleurs pour lui payer son salaire. Donc la seule solution, c'est le respect des droits. Les jours où, comme le nouveau président de la République l'a dit, nous allons dans un état de droit. Chaque monsieur qui commet un délit, une infraction, il répond de ses actes. Chacun aura peur et je crois que quiconque est dénoncé aussi répond à ses actes. Je crois que vous allez voir, monsieur le journaliste, il n'y aura pas de déviation. Tous ces gens sont en train de dévier parce qu'ils savent qu'il y a. Nous sommes dans un règne d'impunité qui a, pendant plus de 25 ans, on est dans l'impunité, dans la continuité de l'impunité. Voilà pourquoi tous ces gens se comportent de cette façon-là. Mais le jour où il y aura l'organe de la loi, il y aura la magistrature qui va dire les droits, et que si une personne est trouvée en infraction, il entre à Makala, il répond de ses actes. Ces jours-là, vous remarquez que la République va se relever.
Alors, parce que vous avez dit, il faut que les droits soient dits sur le plan normatif. Est-ce qu'aujourd'hui, les droits des travailleurs est vraiment garanti à RDC?
Pas du tout. Pas du tout, parce que vous-même, vous l'avez dit. Partout, ces entreprises qui grèvent, il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Mais partout, moi je vous dis que je viens de rentrer hier soir. Je viens du Katanga. Mais j'étais à Lualaba. J'étais au Katanga. Mais je vous dis, c'est incroyable que l'on vive dans un pays de cette façon-là. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont ici, même les autorités sont au courant. Certaines autorités s'avouent
un peu. Mais pourtant, il y a des textes. C'est là où je parlais de plan normatif. Il y a quand même des textes.
Les textes, ce sont des lettres, comme dit dans la Bible, on dit la lettre est morte. C'est l'esprit qui vivifie. Si les gens qui doivent animer les textes ne les animent pas, les lettres vont rester dormir.
Et quels sont ces textes, si vous pouvez nous faire quand même une idée, qui aujourd'hui, sur lesquels repose le droit du travail aujourd'hui?
Le code du travail, par exemple. Mm-hmm. Vous savez que la plupart des gens n'ont pas de contrat du travail. Ils travaillent. Et même dans les emplois, dans notre pays, il est interdit d'engager les travailleurs journaliers dans les emplois qui sont des emplois permanents. Mais vous avez entendu qu'il y a un phénomène qu'on appelle des sous-traitances. Mmh. Abusivement, les sous-traitances, mais au fait, c'est quelqu'un qui, parce que chaque société, chaque entreprise a un objet social. L'objet social, c'est l'objet principal, l'entreprise est constituée. Mais lorsque une entreprise va sous-traiter l'objet principal de son existence, cette entreprise vaut encore quoi? Et comment dans un pays, les autorités du pays peuvent accepter qu'on puisse sous-traiter les entreprises qui font l'objet même de l'objet social? Une entreprise vient ici pour objet social, la communication. Et puis quand elle va sous-traiter, elle reste une entreprise de communication comment? Une entreprise reste, par exemple, une entreprise qui produit, par exemple, tel produit. Lorsqu'il va sous-traiter ça, elle va rester une entreprise de ces produits-là. Pour quelles raisons? Donc, les raisons sont connues. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de contrôle. Nos autorités, parfois, acceptent des prébandes, des corruptions auprès de toutes ces sociétés. Les Libanais qui sont ici, tout ce qu'ils font, c'est quoi? Observer les attitudes des autorités, les Indiens, les Chinois, tous. Quand vous allez, moi j'ai vu un Chinois résister une autorité, soi-disant il a la protection d'une haute autorité, alors qu'il est venu ici, il n'a même pas de carte. Voilà. Certains qui trouvent au Katanga n'ont même pas de carte de travail. La DGM leur a juste donné une autorisation, ils sont entrés et c'est fini, c'est terminé, ils sont en train de travailler.
Parce que vous avez évoqué le code du travail, à part le code du travail, est-ce qu'on peut citer également la convention collective?
Oui, mais la convention collective fait partie du code du travail parce que c'est institué par un article du code du travail. Quand quelqu'un viole la convention collective, il a violé le code du travail qu'il a institué. Donc, les violations, si je me mets à les détailler, tous les détails, mais c'est dans chaque aspect, ça dépend des cas et des entreprises. Dans certaines contrées où il n'y a même pas les contrôles, des institutions, par exemple, vous allez dans la forêt, les usines sont à 200 km, à 300 km d'une ville. Là, il n'y a quelle entreprise qui existe? Et là, il n'y a aucun contrôle qui est institué à ce niveau-là. Donc, les autorités se contentent des déclarations que les gens font, et souvent, ce sont des fausses déclarations, y compris la fausse déclaration des travailleurs. Il a 2000 travailleurs, il vient déclarer. Il a 600 travailleurs. Il a 400 travailleurs. Les autres sont considérés par l'entreprise comme des clandestins. Vous voyez, et ces gens-là n'ont pas de droits et n'ont pas des gens auprès de qui ils vont revendiquer leurs droits. Donc c'est tous ces aspects-là, messieurs les journalistes, qui font que la violation du droit du travail est tout à fait massive dans notre pays et il faut les inspecteurs du travail formés et suffisants pour qu'ils puissent contrôler, comme à l'époque, faire des inspections régulières dans les entreprises pour que les entreprises soient dissuadées.
Voilà, inspection régulière. Nous vous gardons en ligne, Guy Koukou. Il est temps maintenant de brosser les tableaux de la situation dans ces entreprises réellement. On va commencer avec la SONAS avant de retrouver un de nos invités qui est d'ailleurs l'expert en droit du travail et qui suit de près la question du FPI aussi. Alors, on va suivre Pascal. Vous êtes un agent de SONAS et vous avez dirigé le syndicat de la SONAS. Pascal, vous êtes avec nous?
Oui. Bonjour, JR.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi il y a plusieurs années, on sent qu'il y a grogne au niveau de la SONAS?
Bon, il faudra je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Moi, c'est Pascal Bamanaï Kambala. Délégué syndical à la SONAS m'a empêché d'y travailler puisque nous avons revendiqué, dénoncé la mauvaise gestion à la SONAS. La SONAS, c'est un problème de mauvaise gestion qui a caractérisé cette entreprise. Figurez-vous, à ce jour, c'est plus de 50 mois d'arriéré de salaire. Moi-même qui vous parle, j'attends le mois de août 2014 qui sont bloqués tous mes droits. Monsieur Guy Koukou, d'ailleurs, je le salue, il me connaît. J'ai fait partie de son syndicat CDT. Donc, le vrai problème qu'il y a à la SONAS, c'est la mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, c'est quoi? C'est d'envoyer toujours, de politiser les entreprises publiques. Parce que quand vous envoyez un politique, il vient pour répondre aux dictats politiques, pour aux besoins politiques. Il faudra, comme aujourd'hui, nous assistons à la SONAS, à la remise de reprise, parce qu'on a nommé, on a désigné d'autres personnes, Monsieur Bouchi Ramazani comme directeur général, et Monsieur Mbayo comme directeur général adjoint. Ce sont les fils maison qui maîtrisent bien la SONAS, qui ont commencé leur activité professionnelle à la SONAS. Donc, ils maîtrisent bien cette entreprise. Donc, le fait que l'homme politique cherche à politiser toutes les entreprises, mais c'est là le problème. Aujourd'hui, moi, je n'accepte pas...
Mais alors, Pascal, vous êtes des syndicats empêchés de travailler. Vous avez mené des démarches auprès de l'inspection du travail. Quel a été le résultat? Vous qui défendez les agents.
Il y a un vrai problème. Jusqu'aujourd'hui, le président Guy Koukou, il connaît. Le conflit collectif ouvert à la SONAS à l'époque, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de conclusion. C'est-à-dire quoi? Les choses ont été politisées. Les inspecteurs ont peur des mandataires parce que les mandataires ont des ramifications au niveau, à l'époque, je ne dis pas maintenant, à l'époque du régime qui vient de partir, il y avait des ramifications. L'inspecteur qui ose défier un ADG, il risque de perdre son poste. C'est là le vrai problème. Nous tous, les syndicalistes, figurez-vous, il y a un groupe de syndicats SONAS qui a été réhabilité par le ministre Bahati Lukobo, à l'époque ministre du Travail. Mais l'ADG de la SONAS sortante, avait refusé. Figurez-vous. Quelle
voilà. Alors, nous vous gardons en ligne le temps de d'accueillir également honorable Jean Calvin Minga, qui est expert en droit et puis également qui suit de près la situation de au niveau de travailleurs du FPI. Parce que quand on évoque un fait qui s'est déroulé à l'époque où Bahati fut ministre du travail, qui demande à la DG de réhabiliter les agents, il y a refus. Et c'est cette situation qui s'est produite aujourd'hui aussi au niveau du FPI.
Je suis d'avis avec M. Guy et également avec M. Pascal, parce que c'est le fait de politiser les entreprises publiques qui a la base de tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays. C'est comme ça que moi je me dis, on ne peut pas condamner l'inspection générale du travail, parce que les DG que nous avons, ce sont d'abord des politiciens. Et quand vous prenez des décisions, les ministres prennent la décision de réhabiliter. Mais un DG refuse. Nous sommes dans quel état? C'est le cas du FPI. À l'arrivée du comité Kitebi, à la tête du FPI, il a été sélectionné une catégorie des agents et cadres dont leur grade s'est vu rabattu. Les grades acquis depuis 3 ans pour les uns et 4 ans pour les autres, en violation des prescrits de l'article 4 de la convention collective du FPI, qui garantit les droits acquis et qui dispose que la convention collective ou le statut du personnel du FPI ne peuvent en aucun cas réduire les avantages acquis par les agents. Entre-temps, certains collègues bénéficiaires des grades dans les mêmes conditions que les autres sont épargnés dans cette mesure. Et l'ironie du sort, c'est que le DG Kitebi, qui reproche à ses prédécesseurs, lui-même est tombé trop bas en engageant les nouveaux agents à des grades de directeur, à des grades de fondé de pouvoir. Or, dans notre législation, le grade de directeur n'est pas le grade de recrutement. Et plus grave, il y a l'intersyndicale qui conteste les décisions, qui déclare les décisions de l'irrégularité, de l'arbitraire, de l'injustice, et l'inspection générale du travail fait son rapport et demande au ministre d'annuler toutes ces décisions et de réhabiliter les agents. Le ministre prend la décision de réhabiliter les agents qui est victime de l'injustice et de l'arbitraire, mais les DG Kitebi refusent.
Voilà. Parce donc c'est, que... bon, je crois que d'une manière générale, quand Pascal évoque le cas du SONAS, vous évoquez le cas du FPI, on va écouter quand même Guy Koukou. Vous êtes encore en ligne avec nous, Monsieur Guy Koukou.
Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, la DGI est en grève. Une partie des agents, on l'a vu, à l'extérieur, en train de revendiquer la plus-value. Et c'est la CDT qui a déclenché cette grève au moment où il y avait des négociations au niveau des ministères de finances. Et comment on en est arrivé là?
Oui, non, il faut corriger. Les gens ont dit beaucoup de bêtises là-dedans. Ils ont dit des faussetés. Il y avait cette plus-value n'était pas reconnue. Il y avait une réunion qui a eu lieu au mois de décembre. Dans cette PV-là, l'intersyndicale tout entière n'a plus reconnu cette prime-là de plus-value. C'est la raison pour laquelle la CDT seule a relancé cette revendication. À notre grand étonnement, vous avez suivi ces derniers temps dans la presse comment nous avons été pris à partie, la CDT a été prise à partie, y compris par les syndicalistes, les vrais qui devaient soutenir la revendication des travailleurs. Mais nous avons été pris à partie pour dire que nous avons fait, il y a une main noire, il y a des agitations, il y a l'opposition. On a raconté des histoires. Alors que les plus-values, c'est la loi. Il y a un, la plus-value, ça relève du domaine de la loi. Il y a un décret, je crois, qui a été signé par le président de la République. Nous n'avons fait que revendiquer ça. Alors, comme toujours dans notre pays, il y a des gens qui utilisent leur pouvoir, qui pensent que quand ils sont au pouvoir, ils peuvent marcher et sur les lois et pensent que d'autres compatriotes ne peuvent rien dire parce qu'ils n'ont pas de position qu'ils ont. Mais nous, la CDT, nous surveillons. La grève n'a pas eu lieu, ce n'était pas une grève. Nous avions fait une assemblée générale. Nous attendons l'issue de cette commission. Il y a une commission qui a été instituée. Si la revendication est honorée, si on va dans le sens de la revendication, nous n'avons plus revendiqué. Mais par contre, si on ne tient pas compte de la revendication, nous reviendrons parce que nous donnons la chance aux négociations, comme on a dit, mais il faut que ces négociations-là soient là.
Oui, mais Guy Koukou, on a l'impression qu'aujourd'hui, le droit du travail est exigé, le respect du droit du travail est exigé à l'employeur que à l'employé, parce que c'est, il y a un contrat qui lie les deux parties.
Mais cela signifie quoi? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler ou vous voulez parler de quoi.
Non, mais parce que quand on a l'impression que vous, les syndicalistes, quand vous montez au créneau, vous ne défendez qu'une partie, c'est-à-dire les travailleurs. Mais pourtant, les droits du travail, il faut ressortir les droits des uns et des autres.
Mais bien sûr, mais les droits des uns et des autres, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a produit. On a dépassé les assignations. Il faut que la plus-value soit... C'est tout. Et quand on revendique, là, on n'est plus en droit. On n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'on a? Il faut relever parce que, vous savez, les gens qui n'ont pas d'argument recourent aux intimidations, recourent à... Quand il y a un argument, moi, tel que je suis là, invitez-moi sur un débat. Si j'ai des arguments, je n'ai pas besoin de menacer.
Alors, si vous pouvez, vous, en tant que CDT, au regard de la situation, par exemple, au FPI, quand il y a des agents qui ont été rétrogradés, d'autres licenciés, et un ministre qui demande la réhabilitation de ces agents, bon, les DG, lui, il évoque des raisons de la liquidité au niveau de l'entreprise pour trouver quand même des solutions. Comment vous réagissez?
C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas, nous ne sommes pas, sous d'autres cieux, ce DG-là, on les révoque et on l'arrête. Lorsqu'il y a un citoyen, un monsieur, prend les droits des autres comme des faveurs et que lui se fait sur les droits des autres pour produire les mêmes... Et vous avez suivi ce qui est intervenu. Lui a condamné les actes que les autres ont faits. Il a fait pire que ça. Il a engagé encore des directeurs. C'est-à-dire, il a fait pire que ces gens qui l'ont révoqué. Bon, dites-moi, un tel monsieur... Est-ce qu'il mérite de circuler?
Voilà. Alors, le droit du travail, on va écouter Olivier qui est à Kikwit. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour.
Vous êtes à tous les invités.
Quelle est votre contribution, Olivier? Voilà, Olivier, tout autour de vous, il y a du bruit, hein, Olivier? Olivier, vous êtes avec nous? Voilà, on revient à Pascal.
Et leur mission, c'est tout simplement de pourvoir au fonctionnement de leur parti. Donc ça, c'est le premier grand problème qu'on doit résoudre. Et je suis content d'apprendre qu'on est en train de faire la remise des prix à la SONAS, parce qu'effectivement, même à l'intérieur, les agents de la SONAS se plaignent. Alors, ça, c'est un premier problème. Alors, le deuxième grand problème, c'est que les inspecteurs du travail n'ont pas une grande marge de manœuvre. Il y a un des intervenants qui l'a dit. Les inspecteurs sont liés. Ils sont liés par quoi? Ils sont liés parce que eux aussi ils dépendent des ministères et ils reçoivent parfois des injonctions. Et ce sont des personnes qui, si on les considère comme des fonctionnaires de l'État, ils vivent aussi la même misère que les autres travailleurs. Et donc, ils doivent tout faire pour se protéger. Alors ça, c'est un deuxième problème qu'il faut résoudre. Les inspecteurs n'ont pas de grandes marges de manœuvre. Alors, le troisième problème, c'est que il y a des entreprises, si je prends les autres entreprises, le barème des salaires n'est pas respecté, ça c'est quelque chose qui est connu. Alors, comme il y a des entreprises qui ont le monopole, parce que le marché de l'emploi, vous savez très bien que c'est un marché qui a besoin d'entreprises, il y a plus de demandes que d'offres. Alors, les gens sont obligés de se cramponner aux petits emplois qu'ils ont. Et ça complique un peu le travail. Quand bien même ils peuvent réclamer, l'entreprise, l'employeur sait que ils vont réclamer, ils vont s'essouffler. Les gens sont essoufflés parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a aussi un quatrième problème, JR, c'est que dans plusieurs autres entreprises, il y a des nouvelles unités éternelles, nouvelles unités pendant plusieurs années. Alors, ils n'ont pas d'autre solution que de rester là, se contenter de la misère qu'on leur donne à chaque fin du mois. Donc, ce sont des problèmes très sérieux que nous devons résoudre. Et je pense que il y a vraiment du pain sur la planche pour le gouvernement qui est en place pour le moment. Donc, voilà un peu ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Olivier. 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30. En rediffusion le samedi à 13h05.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons donc cette émission avec vous, honorable Jean-Calvin Minga. C'est vrai, vous venez de suivre les uns et les autres, et puis l'échange avec Guy Koukou. Pascal, vous gardez encore la ligne. Mais quelle est votre réaction aujourd'hui? Parce qu'il y a des solutions, il doit en apporter. Et ce sont lesquelles?
Moi, j'estime...
Parce que le tableau est sombre, que ce soit à l'ONAT,
la
au FPI.
La solution, c'est le rétablissement total de l'autorité de l'État à tous les niveaux. Parce que vous allez trouver qu'il y a des mandataires tout puissants qu'on ne peut pas bouger. Vous voilà, vous avez vu la réaction de mon frère Guy. Il vous dit que ces mandataires pareils sont des mandataires qu'il faut arrêter. Parce que ça fait la honte du pays. Ça fait la honte de notre État. Qu'un mandataire puisse se fouler au pied, marcher sur les lois du pays. Il y en a qui commencent à créer, ils créent un atelier, et sur cet atelier, ils prennent des décisions qui violent des lois.
Est-ce qu'à ce niveau, les ministères des tutelles, les ministères des tutelles, a-t-il le droit, en tout cas, de pouvoir sanctionner un DG ou une autorité qui bafoue les décisions, par exemple, de son ministère des tutelles?
La loi portant le fonctionnement des mandataires publics exige que les mandataires qui violent les règles, les textes réglementaires de l'entreprise soient sanctionnés, soient révoqués. Le malheur pour notre pays, il n'y a pas l'application de toutes ces lois. Parce qu'un DG qui est reproché par les ministres d'État, les ministres d'emploi, prévoyance sociale, lui donne des instructions, il décide. Le DG dit le contraire. Il en est le même, le cas de l'ancien DG de la SONAS. Elle a refusé, elle s'est restée. Ça devient déjà un système qu'on doit appliquer dans un État. Et là, qu'elle peut dire si le ministre est humilié à ce niveau, qu'elle peut être le
voilà,
sort
on va écouter Pascal.
D'un inspecteur
oui.
général.
Alors Pascal, vous êtes nous avec nous? Pascal, vous êtes encore avec nous? Pascal, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne. Alors, monsieur Guy Koukou. Allô, monsieur Guy Koukou.
Oui, allô, je suis avec vous, je suis là.
Voilà. Alors, donc, vous avez suivi tout à l'heure, Jean Calvin. Aujourd'hui, c'est vrai, quand un ministre prend une décision et que cette décision n'est pas exécutée, bon, comment vous réagissez? Quelle peut être une solution? Est-ce que le ministre a le droit de pouvoir sanctionner un DG? Ou demander à ce que...
Le ministre du Travail ne peut pas sanctionner un DG. Par contre, il y a un ministre de tutelle. Dans un pays normal, il y a un seul gouvernement et chaque ministre a son collègue qui a un département qu'il contrôle. Normalement, il y a même certains ministres, ne vous en faites pas, au régime passé, il y avait des DG qui étaient plus forts que des ministres, qui faisaient même révoquer des ministres. Ne vous étonnez pas, monsieur le journaliste. Mais au-delà de ça, je crois plutôt que c'est plutôt un problème de la justice. Parce que notre justice, il y a un problème. Il est dit dans la loi que l'inspection judiciaire peut se saisir des dossiers. Tous ces abus, tout ce que vous avez subi ici, passe du fait des droits. Vous avez suivi qu'aux États-Unis, même le président de la République a pris des mesures que la justice a remis en cause, a annulé. On a suivi ça. La justice élève une nation. Chez nous, c'est que même la justice est empochée. Même tout est instrumentalisé.
Oui, mais oui, monsieur Guy Koukou, parce que quand vous parlez de la justice, je crois que Pascal avait même saisi, pour le compte des syndicats de la SONAS, à l'époque, la justice. Alors, Pascal, vous êtes avec nous? Alors, Pascal, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Oui, à l'époque où vous avez saisi la justice, quelle a été la réponse de la justice pour le cas de la SONAS?
À l'époque, en fait, il faudra comprendre une chose. En matière du travail, de conflits collectifs de travail, il faut saisir l'inspecteur général du travail. À son temps, les syndicats qui étaient là, ils ont saisi l'inspecteur du travail. Jusque-là, les conflits restent ouverts. Le président Guy Koukou connaît bien cette affaire. Mais le vrai problème qu'il y a à la SONAS, vous entendez ce bruit, les agents attendent la révision.
Oui, il y avait des syndicalistes à l'époque qui étaient qui ont fait l'objet de la justice, des accusations par exemple des autorités de l'entreprise et qui notamment vous.
Moi-même personnellement, je parle et je prends le conseil spécial du chef de l'État à témoin. L'ADG de la SONAS, Carole Aguito, et la SONAS ont fabriqué deux faux cachets, de la primature et de l'usolobandi. Je suis clair et j'ai des preuves. Je prends un témoin.
Alors, non, ma question, est-ce que la justice s'était saisie de cette affaire?
Je vous dis, il y a un vrai problème. Nous espérons qu'avec le nouveau chef de l'État, il faudra que la justice, il y a beaucoup de dossiers. À l'époque aussi, le 2008, on saisit la justice qui a eu des sommes de 2 millions de dollars à la Sonac. Jusqu'aujourd'hui, la justice n'a rien fait. Il y a un vrai problème de ce côté-là.
Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup de nous avoir éclairé. Alors, on reviendra à vous, Guy Koukou. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue, Sylvain.
Bonjour.
Vous avez la parole, Sylvain.
Oui. En fait, nous parlons de la gestion des entreprises publiques congolaises. Ma position est claire par rapport à ça. Donc, la politisation de cette gestion ne peut pas permettre que nos entreprises reflètent les unités de production de vie. Alors, vous posez la question, est-ce que c'est un problème syndical ou un problème au niveau
inspectoral?
Bon, je dis non. Non. C'est plus un problème de gouvernance. C'est plusieurs fois que nous revenons sur cette question de gestion de nos entreprises. Nous disons que le plus grand problème relève au niveau des leviers de gestion de ces entreprises-là. Alors, les problèmes sont partout. D'abord, il faut noter plusieurs éléments. Il y a un régime qui vient de passer, un régime qui avait pratiquement soumis le peuple dans un terrorisme sans pareil. Et il sent que une liberté d'expression. Donc, il faut lancer un message au niveau président de la République pour que le président puisse avoir un peu de regard sur les problèmes des travailleurs. Mais le véritable problème va être maintenant au niveau de la gestion. Au niveau de la gestion des entreprises. Alors, moi, je vais retracer un peu l'histoire si vous voulez. Le syndicat qui devait être aux côtés des travailleurs, avec la libération de 1990, souvenez-vous, à l'époque, c'était un seul syndicat qui s'appelait l'UNTEZA, l'Union nationale des travailleurs du Zaïre, qui jouissait du monopole du contrôle des droits des travailleurs. Puisque vous avez là soulevé la question du code du travail, oui. Mais aussi la Constitution dit que chaque travailleur a droit à un traitement équitable et qui doit être décent. Malheureusement, comme vous savez, comme je le dis au début de mon intervention, tout est politisé. Donc, on va nommer un adjoint d'une entreprise qui est frère à un ministre, à un député. Il est là pour rendre compte à son parti politique. Il n'a aucune vision. Et c'est là où ça pose un problème que nous, managers économistes, nous appelons l'objectif de l'entreprise, la vision, la mission, la vocation. Ce sont des choses qui vont présider à la gestion d'une entreprise pour que nous allions à ce que nous puissions avoir les résultats positifs, ça veut dire dans le traitement décent du personnel. Nous ne sommes pas là-bas, monsieur le journaliste. Et ça pose un problème. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions nous dire vrai. Il faut commencer à refonder nos entreprises en mettant des personnes qui savent la gestion des entreprises. Et pas des politiciens qui viennent juste servir leur parti politique ou leur gouvernement politique. Malheureusement, le cas au Congo et peut-être aussi en Afrique, lorsque nous analysons la façon de gestion des entreprises, c'est plus des hommes politiques qu'on envoie à la tête des entreprises. Et ça ne marche pas. Voilà le plus grand problème de nos entreprises.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, quand nous avons pensé que le climat de confiance et d'harmonie a instauré dans ces entreprises, il va falloir renforcer les contrôles de l'inspection du travail. Tout à l'heure, Guy Koukou évoquait les inspecteurs vieillissants, on a recruté dans l'administration, et puis aujourd'hui, l'effectif, hein, c'est déjà un problème. Oui, Sylvain.
Allô?
Oui, on vous écoute, Sylvain.
Je peux vous dire. Malheureusement, le pas que vous m'appelez, j'ai oublié mon code de travail à la maison. Mais si je l'avais, j'allais vous dire ceci. Les arsenaux juridiques qui sont prévus en matière de la protection des droits des travailleurs, tout à fait logique. Mais le plus grand problème, c'est quoi avec nos entreprises? Et je suis cela d'ici, puisque nous, économistes et managers, nous disons que la vie d'une nation est fondée sur la vie des entreprises. Puisque c'est là où on a le bien-être. Alors, du moment où le levier de gouvernance, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources techniques, temporelles et tout, ne sont pas correctement combinés, corrélés, du tout, pour que ce ne soit pas des entreprises, ce sont des mouroirs. Écoutez, allez voir la portefeuille de chacune de nos entreprises. Vous avez parlé de la TGI, de Gérard, à Bouillard, je vous parle de la Sokimo. Plus de 123 mois payés, des personnes qui ne savent pas comment ils vivent, mais il y a rattachement à chaque fois de DG. Donc il faut se poser des questions sur la mission qu'a une entreprise. Et alors, lorsqu'on met en place un comité de gestion d'une entreprise, il faut qu'on se rende compte de la mission que l'entreprise viendra faire dans la société congolaise. C'est là où ça manque. Et nous, on m'a même dit que c'est un péché grave lorsqu'on ne connaissait pas donner à une entreprise une mission, une vocation, celle de pouvoir rendre la vie à la population et le bien-être à la population. C'est ça le plus grand problème que je sollicite ce gouvernement actuel, de pouvoir finalement convoquer un forum des entreprises du Congo pour qu'on essaie de faire le diagnostic stratégique de ces entreprises, qu'on essaie de voir les faiblesses et les forces.
Oui, alors Sylvain, juste une question avant de vous libérer. Est-ce que les autorités des entreprises ont-elles le droit de pouvoir rétrograder, par exemple, un agent que l'entreprise avait promis à un poste, par exemple? Oui, Sylvain. Est-ce qu'une autorité d'une entreprise a-t-elle le droit de pouvoir rétrograder un employé qui a été promis à un poste, par exemple?
Vous savez, en matière de l'octroi de grade dans nos entreprises, il y a un texte réglementaire qui doit être respecté. C'est ce que je vous ai dit. Lorsque tu es présidé par des intérêts politiques et par la boulimie politique, c'est là où il y a des cacophonies, c'est le cas de notre pays, la RDC. Et moi, des fois, ça me fait très mal, puisque lorsque vous suivez d'attaques entre un chef hiérarchique avec son subalterne, juste pour un intérêt personnel, on veut rabattre quelqu'un, et même chasser, hein. D'abord, abattre un bras, ce n'est pas un problème. Mais quand on chasse les agents, par exemple, à cause de revendications. Donc, ce sont des grands problèmes, monsieur le journaliste. Et moi, je dis aujourd'hui, sincèrement, excusez-moi, nos entreprises sont des mouroirs qu'il faut refonder.
Qu'il faut refonder. Qu'il faut vraiment
refonder. Nouvelles personnes qui savent les métiers des entreprises. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé des Bounia. Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour, Gervais.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité, à tous les numéros qui sont en train de suivre en ce moment.
Oui, quelle est votre contribution, Gervais?
Oui, ma contribution par rapport au sujet du jour était celle de bien vouloir donc insister sur le cadre juridique et aussi sur le cadre du fonctionnement, aussi des contrôles dans certaines entreprises publiques, comme vous l'aviez souligné dans votre publication. J'ai réussi à signaler d'ores et déjà que dans une société, il faut y avoir toujours une série de contrôles pour la certitude, soit du fonctionnement d'une société, aussi d'une entreprise. Mais en ce qui concerne la question dont vous aviez posé, licenciement, etc., sans préavis, avec le droit du travail, il y a toute une procédure là-dessus. Mais pour un cas d'une faute lourde, on peut toutefois licencier quelqu'un en cas d'une faute très lourde. Donc, un monsieur, c'est le père, j'avais dans la rétrogradation, c'est une question peut-être qui se passe dans des entreprises où il n'y a pas assez de contrôle, mais ces personnes-là doivent être poursuivies par la justice parce qu'ils n'ont pas parfois qualifié de rétrograder certains de ses coéquipiers. Mais dans ce qui concerne un peu le licenciement, dans le cadre d'une faute lourde, on peut licencier quelqu'un sans préavis.
Voilà. Alors, honorable Jacques Calvin, vous la tête, vous voulez dire quelque chose, hein?
Oui, mais il y a le cas des rabattements de grade. Dans notre législation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais les mandataires, comme il y a l'impunité dans notre pays, maintenant les entreprises sont gérées sur base des règlements des comptes, sur base de l'arbitraire, de l'injustice, de tribalisme.
Oui, parce que il y a le contrat du travail aussi entre les parties, l'employé et l'employeur. Mais alors, parce que dans les contrats,
il y a des clauses contenues dans la convention collective qui définit que les grades, ce sont les droits acquis. Et les droits acquis, on ne peut pas y revenir parce que aucun agent ne participe à la prise de décision d'octroi des grades. Alors, c'est l'employeur. Et or, la loi dit que la faute de l'employeur profite à l'agent. Mais vous vous retrouvez devant quelqu'un qui commence à vous expliquer des choses. Simplement, c'est parce que les mandataires se disent, il y a l'impunité dans notre pays, on peut se permettre tout. Et voilà, par exemple, le chef de l'État a interdit tout mouvement du personnel pendant cette période. Mais allez au FPI, il y a des mises en place, il y a les gens qu'on est en train de faire des mutations punitives et qu'on est en train de sanctionner, des mises en place, il y a les engagements qui se font. On se dit, mais et sont quel type de mandataire? L'intercosmoplanétaire et ne sont pas dirigés. Vous comprenez voilà. Que nous sommes dans un état où tout est à refaire.
Voilà,
on ne peut pas condamner l'inspection générale. On ne peut pas condamner.
Donc pour vous, vous estimez que c'est vrai, l'inspecteur général est là, comme l'a dit Guy Koukou, les inspecteurs sont vieillissants. En tout cas, vieillissants, et puis.
Je ne suis pas de cet avis, parce que je prends le cas du FPI. L'inspecteur a pris le courage de dire non aux décisions arbitraires et injustes prises par le DGQTB.
L'effectif aujourd'hui des inspecteurs.
Mais
ça pose problème.
Mais non. Moi, je vous dis, c'est au niveau de l'exécution, au niveau de l'impunité. L'inspection générale a fait son travail. Le ministre de tutelle du travail a pris des décisions. Et aujourd'hui, le DG refuse, vous dit, envoyer le dossier en justice, là où il peut s'arranger facilement, gaspiller facilement l'argent de l'État.
Voyez beaucoup.
Là où nous sommes.
Madame Joséphine, vous êtes à Boston, bonjour.
Bonjour, et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je vais dire ceci. Hein. Hier, j'ai parlé de le gouvernement doit tout faire pour créer des entreprises. Ou bien, par exemple, reprendre la GECAMI, Kilomoto, Miba. Ça, ce sont des entreprises mixtes qui vont engager beaucoup de gens et puis qui va payer les gens comme il faut parce que ça sera des entreprises mixtes. Ce qui se passe au Congo... dans le travail, dans le contrat de travail, c'est abominable. Et tous les gens qui sont là, qui parlent, qui appellent les inspecteurs, sont de Congolais. Et ces Congolais-là vont dans des églises. Vous savez, ici, hein, moi j'ai une entreprise ici aux États-Unis. Mon profit, le bénéfice est divisé par deux. Donc, les 50% là de mon bénéfice, ça va dans le salaire et les taxes de l'État. Mais quand au Congo, quelqu'un qui a une entreprise, moi j'ai mes enfants, j'ai mes neveux qui sont au Congo, qui travaillent dans des petites moyennes entreprises, on ne les paye pas. Donc les petites et moyennes entreprises qui sont là, ils ne regardent même pas le contrat de travail. Ils ne reçoivent même pas les inspecteurs. Ici, dans mon entreprise, je reçois l'inspecteur de travail chaque année une seule fois. Et quand on t'envoie la lettre, on dit que l'inspecteur vient, tu dois tout préparer, tout remettre. Tu n'as rien à dire. Mais au Congo, les inspecteurs de travail, on les traite comment? Ce qu'il y a au Congo... Si les entreprises dont vous parlez là, les entreprises de l'État, les SONAS, les DGM, les DGRAT, eux-mêmes ne respectent pas le travail, ne respectent pas les travailleurs, dépolitiser le pays, dépolitiser les entreprises de l'État. Si vous dépolitisez les entreprises de l'État, tout va marcher. Parce que partout là où on parle, ce sont des Congolais. C'est nous-mêmes. Les autres qui viennent avec les petites entreprises, ils regardent ce qui se passe dans les entreprises de l'État.
Merci beaucoup,
on
madame.
On ne peut pas comprendre un préfet, par exemple, les émissions, les informations passent à la radio Okapi. Un préfet, dans le temps, il prend les salaires des enseignants et il ne le paye pas. Tu ne bouffes pas les salaires de quelqu'un. C'est la sorcellerie que tu es en train de bouffer. Tu ne bouffes pas les salaires de quelqu'un. Un préfet, il a 40 professeurs, mais il dit à l'État qu'il a 100 professeurs. Ça, c'est la corruption. C'est pour cela que le président a dit qu'il faut, si c'est démanteler.
Déboulonner.
On démantèle, on change tout. On peut démanteler et puis reprendre les mêmes personnes parce que si on voit qu'ils ont changé... On va pas prendre d'autres gens ailleurs pour dire que vous êtes des Congolais. Venez. Non, ce sont le même Congolais qu'on doit démanteler et le reprendre s'il démontre la bonne foi. Ce qui manque au Congo, c'est la bonne foi. C'est la bonne foi. Les gens volent les salaires des autres. La corruption. Tout ce que nous parlons ici, c'est la corruption.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Joséphine.
Et il essaie.
Voilà. Donc, vous estimez que tout ça, c'est la corruption, parce que si chacun.
J'envoie mon enfant à l'école, il va corrompre. C'est ça le problème qu'il y a au Congo.
Merci beaucoup, madame Joséphine. Alors, Jérémy, avant de retrouver Guy Koukou à nouveau, alors, on écoute Jérémy qui est à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Monsieur Jérémy, voilà, Guy Coucou, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec.
Voilà. Quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres? Vous avez également écouté l'intervention tout à l'heure de Jean-Calvin Minga qui parle de cette lettre qui a été rejetée par le DG. Bon, il y a vraiment de l'imbroglio dans ce qui concerne le respect du droit du travail.
Oui, je crois que, comme madame l'a dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, premier problème, on doit dépolitiser la gestion des entreprises publiques. On doit mettre des techniciens. Il y a des gens qui ont fait carrière dans les entreprises, qui connaissent mieux l'entreprise, qui connaissent les problèmes de l'entreprise. On ne les met pas. On prend un monsieur qui vient de nulle part parce qu'il est d'un parti politique X, Y. Au lieu d'aller faire la politique, il vient dans les entreprises techniques. On tue l'économie. Et non seulement il va tuer, mais il va voter impunément. Et puis à la fin, on les prend, on les désigne dans une autre entreprise pour aller voler mieux. Il fait une carrière de vol dans la gestion des entreprises. Et ça, on doit arrêter. Deuxième chose, l'état des droits. Dans un état des droits, quand quelqu'un viole les droits, on fait quoi? On l'arrête. Et cela donne des leçons aux autres. On dit, si je fais comme lui, je risque de subir les mêmes sorts. Tant que nous allons continuer dans cette impunité, parce que les politiciens congolais ont pris le pays comme un gâteau. Ils ont la culture, pas d'un pays, mais d'un gâteau. Il faut les déchirer, il faut les découper, manger pour soi et pour son clan. Ça, on doit arrêter. Il faut qu'on revienne à une république de chacun.
Oui, mais Guy Coucou, mais dans cette affaire, il y a certains syndicats qui tirent leur plan aussi.
Mais bien sûr, mais même les syndicats ne sont pas au-dessus de la loi, monsieur. Parle de l'état des droits. L'état des droits, c'est un état dans lequel tout citoyen est soumis, à commencer par le président de la République, les ministres, le premier ministre, les DG, les syndicats, tout ce que vous appelez ça. Nous sommes soumis tous à la loi. Lorsqu'on viole la loi, on répond. Mais vous savez que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Lorsqu'on voit un grand puni, le petit va fuir, ça n'a rien à faire. Mais le problème est que toute cette impunité est entretenue dans des institutions, par les gens qui animent les institutions, et c'est ça qui fait que cette gouvernance va toujours poser des problèmes. Mais nous, en tout cas, en ce qui concerne la CDT, nous avons notre charte, nous avons un engagement vis-à-vis de la nation. Nous contrôlons, nous avons une responsabilité de veiller aux intérêts de la nation, aux intérêts des travailleurs, et même à l'inspection, ils savent, nous veillons, nous surveillons, nous devons nous surveiller mutuellement parce que le pays est à nous tous. Personne n'a acheté ce pays. Nous n'aurons peur de personne parce que le pays est à nous tous. Nous allons tous répondre et nous allons tous aussi agir pour que tout marche dans le pays.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Guy, on va revenir à vous pour la conclusion. Il est temps d'écouter Marie-Paul qui est à Kisangani. Marie-Paul, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Alors, quelle est votre contribution? Est-ce qu'après avoir écouté les autres, vous pensez qu'il faut vraiment renforcer les contrôles de l'inspection du travail, dès lors que même le travail qui est fait aujourd'hui, l'inspection du travail, est bafoué? Est-ce que vous pensez que ça peut être possible d'avoir les résultats dans les jours à venir? Pour que toutes ces grognes qu'on a observées à l'OLATRA, au FPI, à la SONAS, à la DGI, ou encore ailleurs, chez les Indo-Pakistanais, puissent vraiment cesser? Et qu'une solution durable soit trouvée.
Oui, monsieur le journaliste, il faut quand même le dire que c'est toutes ces grandes que nous connaissons dans des établissements, dans public qui est plus en RDC, c'est bien évidemment le résultat d'une politique macabre en ce qui concerne la politique salariale dans notre pays. Parce que nous avons quand même dans notre pays disposition qui régente une politique salariale. Et cette politique macabre est aussi doublée par le fait qu'il y a des retards incalculables dans les paiements. Il y a des gens qui prestent, qui travaillent, mais ils croient qu'ils ont travaillé, on a tout régulé, mais on ne les paye pas. Et pourquoi on doit arriver à ce moment? C'est parce que l'État ne s'est pas encore appliqué. Nous avons quand même des lois qui consacrent les SMIC dans notre pays. Au-delà du fait que les gens ont une modicité de salaire, cela est aussi accompagné par des retards de paiement bien délibérés par les employeurs. Moi, je crois que l'État doit dès maintenant s'appliquer quand même pour que toutes les institutions, toutes les sociétés, les établissements publics arrivent d'abord à appliquer les SMIC
et aussi à payer les gens lorsque l'État, lorsque ils ont déjà prêté, lorsque les mois arrivent à la fin. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens, à tout moment, parce que les gens travaillent pour anoblir leur vie. Mais lorsque les gens travaillent, ils ne sont pas payés, ils ont des retards. Imaginez un peu ces retards-là, combien de dommages et de retards dans les paiements pour accepter les
Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, on va terminer cette émission avec vous, Guy Koukou. Guy Koukou, vous avez suivi les uns et les autres. Comment aujourd'hui, pour les cas, par exemple, de la SONAS, on dit, bon, la solution, il y a déjà une remise et reprise au sein de cette entreprise. Pour le cas du FPI, vous qui êtes aussi de l'intersyndicale, parce que la CDT fait partie de l'intersyndicale du FPI, vous pensez quelle doit être la solution idoine?
La solution est la même, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de solution. Le respect des droits. Point barre. Dès qu'on met cette barre-là, chacun sait que ça, c'est les droits d'autrui qu'il donne. S'il n'a pas fait, il faut aussi qu'il y ait l'inspection qui travaille. Parce que dans le monde du travail, l'inspection, on dit bien l'inspection, c'est-à-dire les contrôleurs des règlements, de la façon dont le travail est fait. Et dans ces pays, quand le pays marchait encore, c'est cette inspection qui a redressé, qui a remis tout le monde à l'ordre. Parce que quand il constate, il signale à l'autorité politique. L'autorité politique réagit. Et le cas échéant, on arrête le monsieur. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, comme on dit, c'est ça le contrôle qui renforce la confiance. Lorsque le système de contrôle est détruit, tout système est condamné à la mort. Aujourd'hui, dans notre pays, tout ce qui arrive, arrive tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Koukou, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On va terminer également avec vous, honorable Jean-Calvin Minga. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Pour ma part, j'en appelle à l'implication des autorités du pays, même dans l'affectation des mandataires publics dans des entreprises. On doit tenir compte de la technicité, de l'expérience, parce que vous devez, quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas fils maison d'une entreprise, quand il vient, il ne maîtrise pas les règles et tout, il se permet de tout faire. Je prends le cas des FPI, où on connaît qu'on ne peut pas sanctionner un agent sans qu'il soit préalablement entendu, qu'il y ait l'ouverture préalable de l'action disciplinaire. Mais à l'arrivée du DG Kitebi, lui, c'est lui-même, il révoque sans qu'on entende.
Oui, ça, vous l'avez déjà dit. Mais
nous avons le cas, par exemple, aujourd'hui, la déviation de la mission du FPI, par exemple. L'FPI qui
est... on a déjà fait beaucoup d'émissions sur ça.
On est dans des subventions, on n'est plus encore
dans des financements. Dommage, on ne saura plus aller plus loin. Merci à Guy Koukou, merci à vous, honorable Jean-Calvin Minga, merci à Pascal pour le code de SONAS, et également les autres auditeurs qui ont eu le courage de participer à cette émission, mais on retient que le respect du droit du travail passe par le respect des normes établies, notamment les textes qui existent et son application. Merci beaucoup à tous et merci à toute l'équipe qui a concouru également à la production de cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe, coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.